Zjednoczenia Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Grâce aux frappes russes en Syrie, le régime de Bachar el-Assad regagne du terrain en Ukraine. Le jeu trouble de Moscou empêche toute stabilisation du pays. La Russie est de retour sur la scène internationale. Mais que cherche vraiment Vladimir Poutine, dont les ressources s'estompent avec la baisse des prix du pétrole et les sanctions occidentales? Redevenir une puissance mondiale, comme au temps de l'URSS, incarner une alternative politique, sociétale et culturelle face à l'Occident forcément décadent. Le président russe a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? Aujourd'hui, la Russie est-elle une puissance forte ou faible? Je vous présente nos invités, combien voulu rejoindre les micros de Carrefour de l'Europe. Tatiana Kassoueva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, chercheuse, on dit?
On dit les deux, chercheur, avec un E à la fin.
Avec un E à la fin. Vous êtes en tout cas responsable du Centre Russie de l'IFRI, et l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et vous avez coordonné, dirigé un numéro de la revue politique étrangère consacré à la Russie, et vous l'avez intitulé « La Russie, une puissance faible », tout de même avec un petit point d'interrogation.
Absolument.
Isabelle Facon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la Fondation pour la Recherche Stratégique, on dit FRS en abrégé. Olga Kokorina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de l'association Russie Liberté. Russie Liberté en un mot?
Oui, Russie Liberté, une association qui se bat pour les droits et libertés fondamentales en Russie et qui, pour l'objectif principal, le soutien de la société civile russe.
Zoya Svetova, bonjour. Strasuitye.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes journaliste au site Russie Ouverte. Comment ça se dit, Russie Ouverte, en russe?
Ça se dit Открытая Россия.
En tout cas, merci d'être en ligne de Moscou. Isabelle Facon, quand l'aviation russe entre en action en Syrie, en bombardant les opposants de Bachar el-Assad, que je vais qualifier de modérés, plutôt que les positions de Daesh, quel est l'objectif premier de Vladimir Poutine? Venir en aide à Bachar el-Assad, assurer le maintien d'une présence russe au Moyen-Orient, irriter les Américains, ou prouver au reste du monde que la Russie est de retour sur la scène internationale?
Bon, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Après, c'est vrai qu'il faut trouver l'ordre des priorités. Je pense que le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad est la priorité pour deux raisons. Bah, d'abord, parce que pour Moscou, la priorité, c'est d'éviter un changement de régime sous pression occidentale, comme dans la perspective russe, ça a été fait en Irak, en Libye, etc. Et en même temps, pour la Russie, il y a cette idée que pour lutter contre les islamistes radicalisés, il faut que ça passe par le rôle de l'État. Et donc, l'idée, c'est aussi d'empêcher un effondrement des structures étatiques en Syrie. Donc ça, c'est la perspective russe. Et il faut le raccrocher à des soucis que les Russes ont également sur leur territoire, même si je dirais que cette menace, elle est souvent instrumentalisée. On pourra sans doute y revenir. Mais il est vrai qu'il y a dans les rangs d'États islamiques des ressortissants du Caucase du Nord, de l'Asie centrale qui est frontalière de la Russie à travers la frontière avec le Kazakhstan, qui est quand même longue de 7000 kilomètres. Donc ça, évidemment, aussi, ça pèse dans les enjeux. Et bon, justement, sur la question des modérés, pour reprendre votre expression, vu de Moscou, apparemment, en tout cas, si on écoute le discours des autorités russes, eux, ils disent, je ne vois pas ce que ça veut dire, un islamiste modéré. Donc, en fait, pour eux, et aussi parce qu'ils veulent avant tout consolider les forces de Bachar el-Assad, effectivement, il y a des frappes contre toutes les formes d'opposition à Bachar el-Assad actuellement.
Tatiana Kastoueva, Jean, le soutien de la Russie à la Syrie, c'est une constante de la diplomatie russe?
Absolument. Il y a vraiment une cohérence dans la politique étrangère russe. C'est toujours de soutenir les régimes légitimes en place, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler sur le plan moral et autres. L'argument principal des Russes consiste à dire on fait tomber le gouvernement légitime, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les exemples qu'on a pu connaître dans la même région ou ailleurs, souvent, c'est quand même le rapport des forces qui devient très défavorable au processus de paix. Il y a une déstabilisation, et ça, c'est l'argument central des Russes. Après la chute d'un gouvernement légitime, c'est le chaos. Après, pour compléter ce que disait Isabelle sur les objectifs, en effet, il y a tout un bouquet d'objectifs régionaux et globaux que la Russie poursuit en Syrie. Et il y a aussi très clairement un lien avec le théâtre ukrainien, l'objectif objectif de faire sortir la Russie de l'isolement diplomatique. Si on pense à 2014 au printemps et à la Russie qui est assez isolée pendant le vote à l'ONU sur la résolution concernant l'Ukraine, on est quand même dans une autre configuration au mois de septembre quand Poutine intervient à l'ONU. En quelque sorte, ou en tout cas pour cette étape-là, je pense qu'il a réussi le coup de force de remettre la Russie sur l'avant-scène du jeu international. Et évidemment, le niveau global, le niveau de l'opposition avec l'Occident est extrêmement important dans le jeu russe. Globalement, elle continue un peu, elle reprend le point de la guerre froide. La Russie se mesurait aux États-Unis, elle se considérait être à la hauteur de cette puissance-là, et aujourd'hui, elle entend faire pareil.
Isabelle Facon, c'est la première fois depuis la fin de l'URSS que Moscou intervient au-delà de son étranger proche.
Oui, il y a eu cet épisode au moment de l'intervention de l'OTAN pour régler, si j'ose dire, le problème du Kosovo, ou pour manifester son mécontentement, la Russie avait déployé ses forces
sur l'aéroport de Pristina.
Mais bon, évidemment, c'est comparaison n'est pas raison, mais c'était juste pour dire qu'il y a eu ce petit épisode en 99.
Qu'on a d'ailleurs assez facilement oublié.
Oui, parce qu'en fait, les Russes s'était trouvé bien embêté, parce que très vite s'était posé le problème de comment on s'occupe de ses forces, étant donné que tous les espaces aériens autour avaient été très rapidement bloqués. La Russie avait plutôt fait preuve de faiblesse et de
désespoir. Ça avait été un mauvais souvenir quand même pour les états-majors russes de l'époque.
Je pense que ça a été un mauvais souvenir pour tout le monde, parce que ça avait créé la surprise. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'on retrouve aujourd'hui, c'est le côté surprise que la Russie exerce aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle nous, régulièrement, elle nous surprend par des interventions qu'on n'attendait pas. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à la situation antérieure du point de vue de la projection de forces russes. Ces dernières années, ça s'était passé surtout sur le pourtour de la Russie, ce que la Russie appelle son étranger proche. Parfois même, on l'a trouvé assez peu actif, puisqu'il y a eu des troubles au Kyrgyzstan il y a quelques années, et on avait reproché aux Russes, dans la région hein, bien sûr, de ne pas intervenir. Mais bon, il y a eu la guerre en Géorgie, et puis l'Ukraine évidemment, et aujourd'hui, la Russie projette sa puissance au-delà de ses frontières, bien au-delà des frontières de son.
Évidemment, une illustration du retour de la Russie sur la scène internationale.
Alors, ça se veut, en tout cas, une illustration, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit côté aussi pied de nez, parce que Barack Obama, ces dernières années, surtout à la faveur de la crise ukrainienne, a à plusieurs reprises qualifié, de façon dépréciative, hein, à son sens, la Russie, en la qualifiant de puissance qui n'a vocation que régionale, en fait. Et je pense qu'effectivement, et Tatiana l'a bien dit, la Russie, de tout temps, a voulu se poser en puissance globale, du fait de sa stature territoriale. Aujourd'hui, du fait de la détention des armes nucléaires, de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Bon, et puis il faut voir que sur place, elle n'était pas non plus totalement absente. Elle avait déjà sa facilité navale à Tartous et ses liens privilégiés avec le régime de Bachar el-Assad. Mais c'est vrai que c'est une première dans l'époque post-soviétique, une projection de puissance pour la Russie en dehors de ses frontières.
Zoria Svetova, avant de vous demander ce qu'on en pense à Moscou, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Laurence Abbaye, bonjour.
Bonjour Daniel.
Courrier International a repris un article de Moskovski comme Semelette qui explique qu'en intervenant en Syrie, Vladimir Poutine a pris un risque majeur.
Oui, et qui rappelle que malgré le soutien très important que Vladimir Poutine a de la population russe, eh bien l'annonce de l'entrée en guerre aux côtés de l'armée de Bachar al-Assad contre Daesh a quand même généré de l'inquiétude et des réminiscences angoissantes pour la population qui s'est tout de suite souvenue de l'entrée fatidique des troupes soviétiques en Afghanistan en décembre 1979 et du bourbier que ça a été pour l'Union soviétique.
Et il voit trois dangers qui pourraient menacer la Russie au sens large du terme.
Alors oui, en effet, l'éditorialiste souligne premièrement la possibilité d'une riposte asymétrique du groupe État islamique qui consisterait à mener des attentats terroristes massifs en Russie. Et il n'a pas tort puisque ce dimanche, le FSB a interpellé trois terroristes présumés qui préparaient un attentat à Moscou en vue de stopper les activités de l'armée russe contre Daesh. Danger numéro 2, l'éventualité de résultats mitigés pour l'aviation russe en Syrie. Or, ce qui peut contrebalancer cette réserve, ça serait que les Russes ont fait valoir et font valoir que leurs actions aériennes sont coordonnées avec les troupes au sol de l'armée syrienne régulière.
Ce qui fait évidemment une différence avec les frappes américaines ou les frappes françaises, par exemple.
Voilà, et c'est l'argument majeur qu'avance le commandant militaire russe. Troisième danger, ça serait en fait la contagion du conflit indirectement à la grande zone tampon qu'est l'Asie centrale, composée d'États qui sont des anciennes républiques soviétiques et où les talibans font aussi valoir certains succès. Ils ont pris la ville de Kunduz il n'y a pas longtemps, même si ensuite ils ont dû la rendre à la frontière avec le Tadjikistan. Et donc ils pourraient, du fait des accords qui existent entre la Russie et ces anciennes républiques soviétiques en Asie centrale, il pourrait se passer que l'armée russe ait à affronter aussi les extrémistes religieux directement aux portes de la Russie.
Laurence Abbé, merci. Courrier international, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, Zoya Svetova, cette intervention en Syrie, comment a-t-elle été vécue par les Russes? À la télévision russe, on a pu voir des pilotes triomphants aux commandes de leurs avions. C'est une guerre un peu irréelle, un peu comme un jeu vidéo que les Russes voient sur les écrans des télévisions publiques.
Écoutez, dans la télévision russe, cette guerre était présentée vraiment comme Bachar Assad, comme frère, disons, frère politique de la Russie. Et c'est vrai que les Russes se sont souvenus très bien la guerre en Afghanistan. Mais le problème pour les Russes, en général, bien sûr, il y a un grand effet de la propagande à la télévision, mais en même temps, les Russes ordinaires se posent la question que cette guerre peut coûter beaucoup d'argent pour la Russie au moment de la crise, au moment que dans certaines régions de la Russie, les gens n'ont pas d'argent, les gens commencent vraiment de devenir pauvres, de vivre dans la misère, et les salaires n'augmentent pas. Le Parlement russe discute tout le temps la question de retraite, c'est-à-dire en Russie, on veut augmenter l'âge de retraité. Tout ça, le budget fédéral, le Parlement n'arrive pas à l'adopter parce qu'il y a beaucoup de trous dans ce budget à cause de la guerre contre l'Ukraine que la Russie avait menée pendant une année. Et donc tout ça, pour les Russes ordinaires, la guerre en Syrie, ça pose une grande question. Mais deuxième chose, vu que l'armée russe n'utilise pas les conscrits, les appelés, les Russes ordinaires ne s'inquiètent pas beaucoup pour leurs fils. Mais dès que les Russes seront obligés d'utiliser les appelés, je pense que le mécontentement de la population sera vraiment sérieuse. Et on peut attendre quelques manifestations, vraiment des grandes manifestations dans la rue, parce que les gens que d'un côté vont constater que leur budget familial devient de plus en plus maigre, que on peut avoir le retard de salaire, le retard de retraite. Et les gens vont se poser la question pourquoi ça pose comme ça. Et deuxième chose, si on verra que Poutine demande les soldats pour faire la guerre en Syrie, dans ce cas-là, le mécontentement des gens sera vraiment grave.
Alors, Tatiana Kassouévajan, on comprend bien en écoutant Zoya Svetova que, évidemment, les Russes ont pensé au syndrome de l'Afghanistan, mais pour l'instant, ce sont des soldats, on va dire, professionnels qui interviennent. Il n'y a pas d'intervention au sol. Effectivement, Zoya Svetova a très bien expliqué, pour l'instant, les mères de conscrits ne sont pas concernées. Il n'y a pas le retour des cercueils qui est évidemment toujours dramatique et qui a provoqué la fin de la guerre de l'Afghanistan dans la dernière intervention. On n'en est pas là.
Absolument. Pour l'instant, en fait, on est vraiment au début d'une trajectoire et on ne sait pas comment elle sera cette trajectoire. D'une part, en fait, la guerre ne concerne pas directement les familles. On la regarde à la télé. On admire la prouesse de l'armée russe et aussi des équipements. On voit quand même le résultat de la réforme militaire. Quand les Russes arrivent à tirer les missiles de croisière depuis la Caspienne, il y en a 26 qui ont été tirés. Bon, on peut se poser la question sur le coût que ça représente, en fait, et le rapport entre l'efficacité et le coût.
Mais en tout cas, c'est perçu comme très prestigieux par...
Extrêmement prestigieux, voilà. On est dans une mission noble, avec les moyens impressionnants, qui dépassent les moyens américains. Et Vladimir Poutine, en fait, met l'accent sur trois choses par rapport à l'action américaine. Il dit, c'est une action illégitime parce que la coalition n'a pas été invitée par le gouvernement syrien. C'est une action inefficace, ça fait un an qu'elle dure, il n'y a aucun résultat. Et c'est une action qui est non coopérative. On a proposé de coopérer, on demande de partager les informations, on demande de nous rejoindre dans la coalition. Les États-Unis ne veulent pas de tout ça. Sur le plan de communication, Poutine s'en sort complètement gagnant pour l'instant. Une autre remarque que je voulais faire sur, en fait, le côté économique de la perception des Russes. J'ai regardé des sondages du Centre Livada, qui, je pense, ils sont dignes de confiance. C'est assez paradoxal, parce que vous avez en ce moment 80% des Russes qui disent qu'il y a la crise économique dans le pays, et sur ces 80%, 50% disent que ça ne les touche pas directement, qu'ils n'ont pas changé leur mode de consommation, tout continue comme avant, et encore 30% qui disent qu'ils ont légèrement adapté leur mode de consommation, mais pas encore d'une manière qui les affecte vraiment très sérieusement. Donc, comme je disais, on est au début d'une trajectoire, on ne sait pas ce que ça va donner d'ici quelques mois, une année.
Tatiana, Isabelle Facon, Tatiana Kaustevajan a mis en évidence quelque chose qui est très important, je pense, dans l'état d'esprit des rôles, c'est le rôle de l'armée, des militaires qui ont toujours beaucoup de pouvoir et qui sont toujours très importants dans l'état d'esprit des Russes.
Puisqu'on parlait de sondage, une chose qui est très intéressante ces derniers temps, c'est qu'on voit un renforcement très net de la confiance des Russes dans tout ce qui est structure de force, comme on dit là-bas. Donc, non seulement l'armée, et ça c'est quand même une nouveauté par rapport à la période antérieure, où vraiment là il y avait une déconfiture de l'armée russe et une image très négative. Et également, ministère de l'intérieur, police, etc. Donc ça, mais ça, c'est vrai que structurellement, le militaire a toujours été central dans, disons, la hiérarchie des outils de puissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que pour une bonne partie des Russes, les moyens consacrés à l'armée, le volontarisme politique que l'on ressent derrière la réforme militaire telle qu'elle est menée depuis 2008, je pense que c'est quelque part, c'est quelque chose d'assez habituel, d'assez intégré dans la façon de penser la manière dont se construit la puissance russe, même si ça peut avoir un impact sur l'économie, c'est-à-dire que les arbitrages les débats qu'on pourrait avoir ici sur les arbitrages entre défense, postes sociaux, en Russie, ils prennent pas exactement la même forme et il semble assez naturel que la défense occupe une place importante comme outil pour rehausser le statut de la Russie sur la scène internationale.
Juste d'un mot, Tatiana Kastoeva-Jean, dans le numéro de Politique étrangère, vous citez à un moment Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, elle est biélorusse et peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un petit mot, et elle explique très bien que le pays est toujours en guerre, soit il est en guerre, soit il prépare la guerre, et que le rapport du citoyen soviétique à l'armée et à la guerre, il est beaucoup plus prégnant, en tout cas que dans nos sociétés occidentales.
Absolument, et en fait, quand vous regardez l'histoire post-soviétique, vous savez, j'ai regardé plusieurs sondages à travers ces années-là, et à aucun moment, la part des citoyens russes qui perçoivent que la situation est complètement pacifiée, qu'il n'y a pas de menace de guerre, ne descend pas en dessous de 50%. Donc il y en a toujours à peu près 50% au mieux qui croient qu'il y a une menace de guerre quelque part. Et en effet, l'expérience de guerre en Tchétchénie, la guerre en Géorgie, vous avez mentionné avec Isabelle l'épisode de la marche sur Pristina, etc.
La guerre en Afghanistan,
ça remonte, c'est antérieur, je parlais juste de la période post-soviétique, mais il y a aussi la menace terroriste. Le pays est le 11e pays le plus touché par les actes terroristes.
Donc il y a toujours cette menace quelque part en l'air. Deux moments de terrorisme très forts dans le théâtre Nord-Sud, si je me souviens bien. Beslan, j'avais une hésitation sur nos noms. C'est vrai que la Russie se sent toujours un peu menacée.
Oui, avant tout, la menace vient en fait de dans l'histoire, les grandes guerres, ça vient de l'Ouest. Et donc c'est un, en plus, en matière de frontières, il n'y a pas d'obstacle naturel de montagne, de rivière. Donc la Russie a toujours tenu à avoir une sorte de zone tampon qui pourrait amortir le choc et avoir quelque chose entre les deux, entre l'Occident et la Russie.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps d'un point sur l'info, avant de retrouver nos invités et de poursuivre notre interrogation. Vladimir Poutine a-t-il les moyens de ses ambitions? La Russie est-elle une puissance faible ou une puissance forte? À tout de suite.
Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Grâce aux frappes russes en Syrie, le régime de Bachar al-Assad regagne du terrain. En Ukraine, le jeu trouble de Moscou empêche toute stabilisation du pays. La Russie est de retour sur la scène internationale. Mais que cherche vraiment Vladimir Poutine, dont les ressources s'estompent avec la baisse des prix du pétrole et du gaz et les sanctions occidentales? Redevenir une puissance mondiale, comme au temps de l'URSS, incarner une alternative politique, sociétale et culturelle face à l'Occident forcément décadent, le président russe a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? Aujourd'hui, la Russie est-elle une puissance forte ou faible? Je vous représente rapidement nos invités. Tatiana Kastoueva-Jean, chercheuse, responsable du Centre Russie de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Elle a coordonné le numéro de politique étrangère consacré à la Russie. Avec ce titre, la Russie, une puissance faible, avec tout de même un petit point d'interrogation. Isabelle Facon, maître de conférence à la Fondation pour la recherche stratégique. Olga Kokorina, vice-présidente de l'association Russie-Liberté. Et Zoya Svetova, journaliste au site Russie ouverte en ligne de Moscou. On va revenir un instant sur la vision du monde de Vladimir Poutine avec cet éclairage de Maria Fonso.
Avec un ton conciliant, Vladimir Poutine s'est présenté comme l'artisan de la paix, l'homme de l'action, celui qui est à la recherche d'une solution face au chaos au Moyen-Orient. Dans un entretien avec un journaliste de la chaîne CBS, Vladimir Poutine explique qu'il est crucial de respecter la souveraineté des États en Syrie comme en Ukraine. Et c'est pour cette raison que les coups d'État et le renversement d'un pouvoir légitime sont inacceptables.
L'Ukraine est le pays qui nous est le plus proche. Nous avons toujours considéré l'Ukraine comme un pays frère et c'est toujours le cas. Qu'est-ce que je trouve absolument inacceptable pour nous? Que des questions relevant de la politique interne des anciennes républiques de l'URSS soient réglées par des révolutions dites de couleur, par le renversement des pouvoirs en place, par des moyens non constitutionnels. Nos partenaires aux États-Unis n'ont pas caché qu'ils soutenaient ceux qui étaient contre le président Yanukovych.
La Russie n'aime pas les ingérences occidentales et Vladimir Poutine critique les actions unilatérales qui, d'après lui, n'ont réglé aucun problème, mais au contraire ont provoqué de nouvelles tragédies humaines ou de nouveaux foyers de tension. Pour le président russe, l'instabilité géopolitique est mondiale. Il a d'ailleurs commencé son discours en rappelant les conditions qui ont présidé à la constitution de l'Organisation des Nations Unies et a rendu hommage à ce système qui, selon lui, a permis de traverser des situations dramatiques et préserver le monde.
L'Organisation des Nations Unies est sans pareil pour ce qui est de sa légitimité, de sa représentativité et de son universalité. Or, ces derniers temps, l'ONU se trouve de plus en plus souvent critiquée parce qu'elle manquerait d'efficacité et parce que les décisions prises se fourrer sur des contradictions insurmontables, notamment parmi les membres du Conseil de sécurité. À la création de l'ONU, personne ne comptait qu'il y aurait toujours unanimité dans cette enceinte. En revanche, la raison de l'organisation consiste à rechercher et élaborer des compromis, sa force résultant de l'effort de conciliation des opinions et des points de vue différents.
Vladimir Poutine à la tribune des Nations Unies lors de la dernière Assemblée Générale, c'était le 28 septembre dernier. Isabelle Facon, les Nations Unies et le fait que la Russie a un droit de veto dans le cadre du Conseil de sécurité, c'est évidemment une constante là aussi de la politique
russe. Fait, c'est un levier, un des leviers de puissance qui, vu de Moscou, en fait, contrebalance les éventuelles faiblesses, et on sait qu'il y en a, de l'appareil de puissance de la Russie. Et jusqu'à un passé récent, c'était vu comme un des endroits endroit où la Russie pouvait essayer de canaliser l'énorme différentiel de puissance qu'il y a entre elle et les États-Unis et se prémunir contre ce qu'elle perçoit comme l'incurable interventionnisme américain surtout, mais occidental en règle générale. Sauf que ces dernières années, la Russie souligne qu'elle a pu observer qu'à certains moments, ça n'a pas fonctionné puisque l'OTAN en 99 a contourné le Conseil de sécurité de l'ONU, qu'en 2003 pour la guerre en Irak, les États-Unis ont contourné le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a ça. Alors le problème de la position russe, c'est qu'elle est un peu fragilisée par sa propre politique sur les questions de souveraineté, de respect de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence, puisque il y a quand même eu le soutien au séparatisme géorgien, la situation en Crimée où quand même on est en totale violation de la constitution de la Crimée et d'un certain nombre de règles du droit international. Donc la position de la Russie est fragilisée de ce point de vue-là, en termes de crédibilité, mais aussi par rapport à d'autres pays dont elle est amie politique, disons au moins, à savoir la Chine, l'Inde, qui elles aussi ont des points de vulnérabilité sur leur territoire du point de vue du séparatisme, ou des tensions en tout cas estimées comme séparatistes. Et donc du coup, ça peut poser des problèmes dans les relations avec un certain nombre d'alliés, que ce soit dans l'étranger proche, pour reprendre le terme russe, ou que ce soit dans les relations avec certains des BRICS.
Tatiana Kassouya-Vincent, est-ce que ce qui se passe en Syrie, le fait que les projecteurs sont centrés sur la Syrie, fait que on va oublier un peu l'Ukraine et que la Russie va pouvoir consolider ses positions en Ukraine?
Je pense qu'il y a un lien, en effet, entre les deux théâtres. La Russie, le message qu'elle essaie de faire passer, c'est qu'elle pourrait devenir un partenaire très utile, très fiable, très crédible en Syrie, mais comment organiser le partenariat avec un pays qui est sous sanction, par ailleurs, à cause de l'Ukraine. Donc, ce qu'elle essaie de faire, à mon avis, et c'est, ça doit être la mission principale de la diplomatie russe en ce moment, c'est de faire tout pour assouplir, voire enlever les sanctions, et de faire passer de cette manière-là l'annexion de la Crimée complètement au second plan, comme une chose complètement acceptée désormais par les Occidentaux. Et en ce qui concerne l'Est de l'Ukraine, je pense que la Syrie peut permettre à la Russie non pas assouplir ses objectifs. L'objectif restera toujours le même, de garder l'Ukraine plus ou moins dans son orbite et d'influencer les grands choix stratégiques concernant notamment l'adhésion à l'OTAN et dans une moindre mesure à l'Union européenne. Mais d'être un peu plus souple sur les moyens d'obtenir cet objectif-là. Et d'une manière générale, pour compléter ce que disait Isabelle, je pense que vraiment le mot-clé pour Vladimir Poutine, c'est le mot de souveraineté. Un pays souverain, pour Vladimir Poutine, c'est un pays qui peut prendre les décisions en matière de politique étrangère d'une manière indépendante, sans aucune influence. Si on prend cette définition-là, l'Union européenne et les pays de l'Union européenne ne sont pas souverains, par exemple, parce qu'ils partagent la souveraineté avec l'Union européenne, donc avec plusieurs États de l'Europe, mais aussi ils sont à la botte, et ça c'est les Russes le disent très fréquemment d'une manière directe, des États-Unis, ils ne décident de rien. Pour la Russie, il y a trois centres au monde qui sont vraiment souverains et peuvent prendre les décisions d'une manière autonome et indépendante. Ce sont les États-Unis, la Chine, et la Russie. C'est dans cette cour des grands qu'elle entend jouer.
Alors, Zoya Svetova, il y a évidemment une constance dans la vision que les Russes ont du monde, c'est d'être toujours en opposition à l'Occident, d'abord les États-Unis, et puis accessoirement à l'Europe, comme vient d'expliquer Tatiana Kassouya-Vincent, l'Europe est quand même au second plan, même si évidemment il y a un voisinage plus proche et plus grand. Est-ce que vu de Moscou, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Syrie, et donc le fait que la Russie soit de nouveau présente sur ces scènes internationales, est-ce que on dit que c'est un petit parfum de guerre froide? C'est un mot qu'on emploie ou pas?
Bien sûr, c'est depuis déjà les débuts des sanctions contre la Russie qu'en Russie, on emploie ce terme, la nouvelle guerre froide. Et en fait, on parle tout le temps dans la rhétorique de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'on vit toujours en présence de l'ennemi extérieur, c'est l'Occident et c'est les États-Unis. L'ennemi intérieur, c'est la cinquième colonne, c'est-à-dire l'opposition, les leaders de l'opposition, les gens qui sont contre le régime de Vladimir Poutine, qui se permettent de le critiquer. En même temps, à cause du conflit contre l'Ukraine, la Russie, après les sanctions de la Crimée, et la Russie, les services secrets russes ont arrêté et ont mis en prison plus de 10 personnes, plus de citoyens ukrainiens qui se trouvent toujours dans les prisons russes et qui sont considérés comme les prisonniers politiques de Poutine. Ce sont les gens différents. Certains parmi eux sont condamnés déjà pour le terrorisme ou pour l'espionnage dans les intérêts de l'Ukraine. Quand maintenant le conflit en Ukraine, c'est un peu étant, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie guerre chaude à l'est de l'Ukraine. Mais la question se pose, qu'est-ce que la Russie va faire avec ses prisonniers politiques qui restent toujours dans les prisons russes? La prisonnière la plus connue en Occident, c'est Nadezhda Savchenko, une pilote ukrainienne dont le procès judiciaire continue à Donetsk, dans la région de Rostov, sur le Don, en Russie. Mais c'est sûr que le verdict sera le verdict accusatif. Elle aura au moins 10 ans de prison et la question va se poser, qu'est-ce que va entreprendre le gouvernement russe et le gouvernement ukrainien? Est-ce qu'ils vont échanger tous ces prisonniers politiques ukrainiens contre les prisonniers militaires russes qui se trouvent en Ukraine et qui sont à leur tour devant la justice de l'Ukraine?
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, la Russie est-elle une puissance forte ou faible? Nous sommes avec Tatiana Kastoueva-Jean, avec Isabelle Facon, avec Olga Kokorina et Zoya Svetova en ligne de Moscou que vous venez d'entendre. Olga Kokorina, qu'est-ce qui explique fondamentalement dans l'état d'esprit des Russes et peut-être des dirigeants russes cette obsession de l'Amérique qui est toujours présentée comme l'ennemi et du plus généralement parlant de l'Occident qui remet en cause ce que pourrait être la Russie et les Russes fondamentalement?
Ouais, cette image d'un ennemi extérieur qui est entretenu depuis des années comme ça et qui entretient la propagande depuis quelques années. Il faut juste revenir aux élections aussi législatives et aux élections présidentielles en 2011 et 2012. C'est que, en fait, il y a des preuves de fraude massive qui existent aujourd'hui. À bien y réfléchir, ni le gouvernement, ni le président n'ont pas légitime puisque tout a été fraudé. Donc aujourd'hui, je pense que aussi les conflits d'extérieur qui le gouvernement de Kremlin met en place et que Poutine lui-même met en place, ils sont aussi dirigés vers soutenir ce pouvoir en Russie, cette création de leader national qui flatte évidemment ce sentiment patriotique qu'on a évidemment vu énormément après l'annexion de la Crimée et surtout aussi nourrit la propagande qui prend aujourd'hui les proportions juste inimaginables en Russie. La propagande ça n'existe presque plus, les médias indépendantes. Donc aujourd'hui, en Russie, quand même, on peut juste voir sur les chaînes fédérales des Madame Météo qui peuvent expliquer pourquoi en fait, le temps, il est favorable pour le bombardement en Syrie.
Des Miss Météo en battle dress,
oui,
quoi.
Voilà. Donc du coup, la propagande, il prend quand même ses proportions. Et à côté de ça aussi, c'est toujours entretenir ce mythe d'un leader, ce mythe aussi d'un sauveur. Et à côté de ça, il y a aussi l'étouffement de la société civile qui aujourd'hui en tout cas nous notre association qui est une association militante on n'a pas de vocation des analyses approfondies, nous on peut juste constater des choses et aujourd'hui par exemple on constate une grande vague d'émigration et de demande d'exil des défenseurs de droits humains, des journalistes, des artistes, tous les gens qui expriment aujourd'hui leur désaccord avec le gouvernement en place.
Alors, Tatiana Kastoueva-Jean, il y a évidemment des gens qui quittent la Russie, mais globalement, la popularité de Vladimir Poutine, elle est très très forte. Elle ferait pâlir d'envie tous les dirigeants occidentaux. Vous l'aviez déjà un peu expliqué dans la première partie de l'émission. Plus la Russie s'implique en Ukraine, en Syrie, et plus la popularité de Vladimir Poutine grimpe.
Vous savez, il y avait un danger dont prévenait l'ancien premier ministre de Boris Yeltsin dans son livre La chute de l'Empire. C'est quand le niveau de vie augmente, il y a un moment où on se pose des questions sur la grandeur, sur le respect du pays, sur la scène internationale, etc. Et c'est en 2006-2007, en fait, qu'il avait prédit, en quelque sorte, ce retour du désir de grandeur des Russes. Et ce désir de grandeur a été parfaitement capté par Vladimir Poutine. Il y répond. Et par ailleurs, il faut dire quand même que les années Poutine ont été plus plutôt les années d'expérience positive pour le peuple russe. Le niveau de vie a grandi constamment. Il a réussi à rétablir l'autorité de l'État et le ramener dans les secteurs qui étaient quand même abandonnés dans les années 90, a mené des réformes pas toujours populaires. Il y a eu, au milieu des années 2000, vraiment un discours. La Russie a donné l'impression de vouloir jouer sur le même terrain que les Occidentaux, donc d'investir dans les innovations, dans le capital humain. Il y a eu plusieurs projets là-dessus. Les objectifs qui étaient fixés, c'était les créations des emplois dans les secteurs de haute technologie, faire entrer les universités russes, 5 universités russes, dans le top 100 des universités mondiales, etc. Donc les objectifs extrêmement positifs qui correspondaient au monde postmoderne des Occidentaux. Et en fait, il y a eu deux choses. Premièrement, il y a eu un échec quand même de cette modernisation russe, l'échec de ces réformes pour différentes raisons, la plupart qui sont vraiment structurelles et liées au régime, à trop d'État dans l'économie russe, la corruption, etc. Et par ailleurs, il y a peut-être l'attitude des Occidentaux qui n'a pas facilité les choses et les interprétations ont été très différentes de ce qui se passait. Parce que, par exemple, l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne, les Occidentaux le voyaient comme un mouvement vers plus de paix, plus de démocratie.
Très naturel, finalement.
Très naturel, voilà. Plus vers le libéralisme, vers plus de prospérité, le bien-être des gens et du peuple. Les Russes ont continué à interpréter ça en termes purement géopolitiques. C'est une lutte pour le contrôle des territoires. Voilà, c'est de cette manière-là qu'ils ont vu l'action des Occidentaux. Donc, ça, ce type de malentendu, de vision différente du monde, ne pouvait finir que par une confrontation tôt ou tard.
Alors, la situation de la Russie, elle est, on peut dire, relativement flamboyante sur le plan international. La Russie est de retour. C'est plus difficile sur le plan intérieur, Isabelle Facon. Le prix du pétrole et du gaz se sont effondrés. Et c'est évidemment les principales ressources de la Russie. 70%, 80% des exportations russes sont des exportations de pétrole et de gaz. Il y a eu les sanctions occidentales depuis l'intervention de la Russie en Ukraine et l'annexion de la Crimée. Ça veut dire que les Russes n'ont plus accès vraiment au crédit internationaux, que les échanges bancaires sont devenus beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire que l'accès aux technologies occidentales qui seraient par exemple très utiles dans l'univers pétrolier sont les Russes n'ont plus, en tout cas plus difficilement accès. Est-ce que c'est tenable à moyen terme cette, on va dire entre guillemets, cette flamboyance sur le plan international et ces difficultés intérieures? Le pays est en récession depuis plusieurs années et ça va continuer.
Oui, alors on s'achemine vers une décroissance. Alors selon les évaluations, on devrait avoir -4, -4,5% sur l'année 2015, sachant que certains, notamment au niveau de la Banque mondiale, prévoient que la Russie renoue avec la croissance l'année prochaine peut-être, mais un très bas niveau. Donc il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Et là, les sanctions, effectivement, en restreignant l'accès aux financements internationaux, pèsent très lourd, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des dettes et l'accès au secteur bancaire russe est assez compliqué. C'est une des fragilités de l'économie russe. Et donc, l'absence de possibilités, ou en tout cas des possibilités beaucoup plus restreintes d'accès au crédit international, ça pose des problèmes pour la Russie. Même si on voit des dynamiques se lancer. Alors, par exemple, on voit des banques chinoises qui ont ouvert des petites lignes de crédit pour aider. Alors, c'est un peu symbolique. Il y a aussi tout ce qui s'est passé du côté des BRICS avec la constitution d'institutions financières parallèles au système de Bretton Woods. Mais tout ça, ce sont des dynamiques dont je pense il faut quand même tenir compte, parce que elle se dénoue dans un contexte où effectivement il y a des pressions occidentales de fait sur la Russie à travers les sanctions, etc. Donc le fait que la Russie puisse faire valoir ces dynamiques alternatives, ça c'est un point qui est quand même assez important.
La Russie a beaucoup compté sur la Chine pendant un certain temps. Ça a ses limites, enfin en tout cas.
Alors,
pour l'instant.
Justement, puisqu'on parlait de la Syrie, je pense pas que ce soit des objectifs en soi de la campagne aérienne russe pour l'instant en Syrie, mais je pense que un des effets de cette affaire ukrainienne pour la Russie, ça a été de devoir, pour montrer qu'on a des alliés solides et de poids sur la scène internationale, malgré les sanctions occidentales, bien qu'on soit isolé face aux Occidentaux, c'est de montrer qu'on a les BRICS et notamment la Chine. Mais pour la Russie, ça a voulu dire accepter des conditions pour établir des gazoducs avec la Chine, des conditions qui ne sont pas forcément favorables à la Russie. C'est aller vers des ventes d'armes que la Russie jusqu'à présent voulait éviter, notamment des systèmes anti-aériens aériens, probablement des avions de chasse, etc. Donc il y a une sorte de précipitation dans le développement du partenariat avec la Chine qui pose des questions dans le débat interne russe, parce que c'est vu comme une possible source de fragilité, puisqu'il y a quand même un différentiel de puissance aujourd'hui avec la Chine, entre la Chine et la Russie, cette fois-ci au détriment de la Russie, contrairement à ce qui se passait dans dans la période de la guerre froide. Et là, il y a peut-être aussi une petite carte à jouer pour Moscou. Je suppose que ça ne leur aura pas échappé. C'est que sur la scène syrienne, on voit qui ? On voit les Russes. Et qui se mesure aux États-Unis symboliquement ? Ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Russes. Et donc ça, plus ou moins consciemment, vu de Moscou, c'est peut-être une façon aussi de rééquilibrer un peu le jeu avec la Chine en termes de puissance internationale. Mais c'est vrai que la crise ukrainienne a eu, pour entre autres, effet corollaire pour la Russie, de l'obliger à développer encore plus étroitement ses liens avec la Chine, dans un sens qui pourrait être défavorable à ses intérêts. En tout cas, il y a beaucoup de voix en Russie qui s'expriment dans cette direction actuellement.
Zoya Svetova, il y a cette contradiction en Russie, à la fois une effervescence sur le plan international, et puis, comme vient d'expliquer Isabelle Facon, des difficultés notamment économiques. Comment les Russes voient leur pays ?
Si vous parlez de Russes ordinaires qui regardent tous les soirs la télévision, et en Russes qui sont empoisonnés par la propagande de la télévision, bien sûr, ces Russes pensent que la Russie, c'est un pays fort, parce que la Russie peut faire la guerre en Ukraine, elle peut faire la guerre en Syrie, elle peut s'opposer à une grande puissance telle que les États-Unis. Donc ces Russes-là pensent que vraiment la Russie, c'est une grande puissance, bien que ce russe ordinaire vit très mal, qu'il a un maigre salaire, qu'il ne peut pas se permettre d'acheter une voiture ou aller à l'étranger, qu'il a aussi un morceau de terre qu'il élabore et vit tout l'hiver avec tout ce qu'il ramasse à son potager. Mais bien sûr, il y a les Russes qui réfléchissent un peu et qui comprennent que le pays de Russie devient de plus en plus un pays de la dictature, où il y a beaucoup de problèmes avec les droits de l'homme, où il y a beaucoup de problèmes avec les libertés, où il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de libre élection. À la télévision, on ne peut pas voir les leaders de l'opposition, c'est interdit parce qu'il y a la liste noire des gens qu'on peut donner la parole à la télévision. Donc, tous ces gens-là, disons, la classe moyenne, ces gens-là comprennent que la Russie, ce n'est pas un pays fort, au contraire, le pays faible, parce que pour montrer, disons, entre guillemets, sa force, ce pays est obligé de continuer des répressions. On constate une nouvelle tendance que au cours de deux dernières années, on voit de nouveau la hausse de la espionomanie, c'est-à-dire on voit de nouveau procès judiciaires contre les pseudo-espions. Et si je vous parle
les pseudo-espions, c'est par exemple les ONG, par exemple.
Ouais.
Par exemple, les ONG
et c'est les personnes physiques, c'est-à-dire les gens, par exemple, ça peut être les gens des différentes professions. Et je peux vous raconter beaucoup d'histoires anecdotiques de ce sort-là.
On comprend bien effectivement là, un peu la dérive un petit peu hystérique hein, de la Russie en ce moment. Il n'y a plus d'idéologie comme autant du monde communiste, mais quand même, Tatiana Kastoyeva-Jean, vous mettez en évidence trois points forts hein, qui caractérisent la Russie aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue idéologique. Le patriotisme, qui est remis vraiment au goût du jour. En gros, tous les opposants sont des traîtres. Le monde russe, et le monde russe, c'est pas simplement la Russie, c'est aussi les Russes par-delà les frontières. Et puis, les valeurs conservatrices que défend Vladimir Poutine, avec l'appui, évidemment, de l'Église orthodoxe, et avec, par exemple, l'horreur absolue qui est le mariage pour tous. Hein.
Absolument. En fait, les valeurs conservatrices, c'est un thème intéressant parce que ça permet à la Russie, si vous voulez, le monde russe, c'est un projet régional qui ne touche pas le monde entier, etc. Mais les valeurs conservatrices, c'est autre chose. Ça permet d'aller au niveau global, en fait. Ça permet de constituer un élément d'une sorte d'idéologie et de rallier les forces aussi dans les pays occidentaux. On voit bien comment le spectre, les deux spectres extrêmes d'ailleurs, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, et aussi beaucoup d'éléments de la droite populaire qui sont très sensibles à ce type de discours. Et en effet, le mariage pour tous et les droits des homosexuels, c'est un peu le cheval des batailles des Russes d'ailleurs. Quand on demande quels sont les autres reproches par rapport aux valeurs occidentaux, souvent il y a ce point-là Et ensuite, il y a un petit blanc, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut reprocher d'autre, en fait, à la société occidentale en matière de valeurs. Le problème de cette idéologie, je dirais, en fait, c'est pas une vraie idéologie. Elle revient beaucoup sur le passé, elle reste très coincée sur le présent, et elle n'offre pas vraiment une vision d'avenir, à quelle société on veut. Pourquoi on fait tout ça aujourd'hui? Pourquoi on essaye, la Russie essaye de s'imposer face à l'Occident pour imposer quoi comme vision de monde? Et ça, moi, je ne trouve pas la réponse à cette question-là. À l'époque soviétique, c'était le socialisme, le communisme, c'était à peu près clair.
La création de l'homme nouveau.
Voilà, on voyait à peu près comment on peut construire les choses, etc. Mais aujourd'hui, avec le mode de consommation occidental que la plupart des Russes ont adopté, qu'ils auront du mal à abandonner. Donc j'ai du mal à comprendre quelle est la vision du monde et le projet de la société que la Russie pourrait chercher à imposer ou faire miroiter comme un idéal qui pourrait rallier beaucoup de forces dans le monde entier.
Merci, ça va être le mot de la fin. Merci à toutes les quatre d'avoir été au carrefour de l'Europe. Olga, Russie Liberté prépare un forum, c'est quand et qu'est-ce qui va se passer?
Oui, c'est samedi 14 novembre 2015 de 17h30 à 22h30 à l'auditorium du centre socioculturel Cerise à 46 rue Montorgueil. Et on a envie de discuter sur la société civile russe. Le thème de cette année, ce sera société civile russe, tous des agents de l'étranger.
Ça avec un peu point d'interrogation.
Et donc, nous avons des invités dont on a l'honneur de leur donner la parole, qui sont des gens extraordinaires et qui continuent à chercher des moyens à revendiquer les droits fondamentaux.
Un peu de temps pour dire un mot sur Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Elle est parue chez les Biélorusses. Elle a écrit, entre autres, un livre formidable qui s'appelle La fin de l'homme rouge, qui est publié chez Actes Sud. C'est à la fois extraordinairement poignant, terriblement désespérant. Tatiana Kastrova-Jean, vous êtes d'accord avec cette analyse sommaire?
En fait, je pense que ce livre permet de comprendre pourquoi la chute de l'URSS a été une catastrophe pour beaucoup de gens, comment ça a pu changer les trajectoires personnelles et professionnelles des gens. Vladimir Poutine avait eu ce mot en disant que c'est la plus grande catastrophe géopolitique. Donc là, c'est une série de petites catastrophes personnelles et qui donne une vision très mitigée de la chute de l'URSS.
Ça permet de mieux comprendre peut-être l'état d'esprit de la Russie aujourd'hui.
Absolument.
Carrefour de l'Europe réalisé par Guillaume Munier. Pour écouter cette émission, RFI.fr ou encore mieux, les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, que vous soyez à Paris, à Moscou, à Minsk, pourquoi pas, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.